Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures d'infos, de rire et aujourd'hui plus que jamais, d'évasion. Oui, mais attention, pandémie mondiale oblige, d'évasion franco-française. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Mathieu. J'ai l'impression qu'on part en séjour d'évasion avec moi en fait.
Mais oui,
ça fait bizarre
en classe verte.
En classe verte.
On serait
si
bien en classe verte tous les deux.
Oui, ce serait pas mal.
Bienvenue.
Bonjour à tous. Pardon.
Bienvenue dans notre spécial cet été voyageons chez nous. 2 heures durant lesquelles nous allons vous prodiguer moult conseils de séjour, d'activités, de randonnées partout en France. Alors, sachant qu'avec Eva, on est vraiment balèze niveau géographie française, on aurait pu faire cette émission juste tous les deux. Juste tous les deux en studio, fort de notre connaissance encyclopédique des départements, comme nous l'avons prouvé lors du quiz géo d'Axel de Tarlé.
Un petit quiz amusant. Alors, le Gers, c'est quelle région le Gers?
Auvergne,
Non. L'Occitanie. La Corrèze, c'est quelle région?
Centre. C'est centre.
C'est le centre, oui.
Non, c'est une catastrophe. C'est la Nouvelle-Aquitaine.
Oui, bon, ça va, Axel. Hein.
Je vois que je tape un taux avec mon quiz. J'aurais dû faire plus simple.
Oui, il avait tapé un taux. Vous l'entendez, la France et ses régions n'ont pas de secret pour nous. Mais bon, pour être vraiment sûr et blinder le truc, on a quand même préféré inviter le cofondateur du Guide du Routard. Bonjour, Philippe Blouagen.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors, avec ce sens du timing, ce flair qui a fait la force du Guide du Routard, vous avez publié en octobre dernier, sans le savoir, le guide ultime de notre été post-Covid, un magnifique ouvrage intitulé Voyage France, 1001 idées de voyage et d'expérience dans notre pays. Alors, clairement, on aurait tort de se déprimer à l'idée de rester en France cet été. On dit qu'on a le plus beau pays du monde. C'est pas juste du chauvinisme, c'est un peu vrai aussi.
C'est un peu vrai et c'est un livre qui pour moi est très important. J'avais un papa instituteur et comme tous les instituteurs, il y avait des marottes, des trucs. Par exemple, il trouvait scandaleux que dans l'histoire de France, les femmes avaient une toute petite part. Et en hommage pour mon père, eh bien, j'ai fait un chapitre sur les femmes célèbres assez méconnues. En France, mais qui ont compté d'une façon absolument fabuleuse. Et j'ai, avec bonheur, fait un livre qui correspondait à quelque chose de très important pour moi. J'ai publié dans ma vie peut-être 2500 guides de routard. Je vais vous dire, sincèrement, et là, je ne déconne pas,
celui-là, vous en êtes
c'est le plus important.
C'est le plus important, si vous en avez qu'un, c'est celui-ci. On va en parler durant ces 2 heures. Mais d'abord, Philippe, je vous présente nos deux premiers concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. Puisque vous le savez peut-être, chaque après-midi, les journalistes de la rédaction se mesurent au service de votre culture G. Or, nos deux premiers loustiques ne se connaissent que trop bien. Entre eux, on peut parler de relations en dents de scie, tantôt rivaux comme Tom et Jerry, tantôt gays comme Tic et Tac. Hélas, dernièrement, ils sont plutôt dans une phase de haine réciproque et totale. Même pendant la pub, Axel de Tarlé ne peut pas s'empêcher de torpiller Anissa Mbida. Écoutez plutôt.
Partir en week-end, en vacances, partir c'est souvent une bonne nouvelle.
Entendu la pub ? Tu vois, partir c'est souvent une bonne nouvelle.
Bonjour Axel de Tarlé.
Bonjour Mathieu. Je vais partir en vacances grâce à l'excellent guide du routard sur les routes de France.
C'est le mode Fayot. Il s'est mis en mode Fayot. Vous êtes notre expert éco, Axel. Avec quel sujet allez-vous tenter de pilonner votre rival du jour?
J'imagine que vous avez lu l'excellente interview de Geoffroy Roux-de-Bézieux ce matin.
Je ne demande pas une interview de Geoffroy
ce matin dans Les Échos, notre maître à penser à tout. Je vais vous parler du télétravail. On en parle beaucoup. Bah, attention, il dit Geoffroy Roux-de-Bézieux. Vous savez ce qui va se passer avec le télétravail?
Qu'est-ce qui va se passer?
On va avoir des télémigrants, comme il dit. C'est-à-dire... Enfin, non, ça, c'est pas comme il dit. Il n'emploie pas l'expression. C'est-à-dire qu'on va, puisqu'on peut travailler à distance, on va employer des cadres et des ingénieurs dans les pays à bas coût. En gros, on va délocaliser l'école.
En gros, vous attaquez parce qu'on va vous délocaliser vous.
Voilà, on va trouver un Marcel de Tarlé 4 fois moins cher à Madagascar. Vous allez voir, pour l'année prochaine, on va faire des économies à Europe 1.
Votre adversaire du jour, Axel, est, on peut le dire, l'expert innovation d'Europe 1. Non, je vous en prie, Axel, je vous en prie. Il est vraiment calé en nouvelles technologies. Bonjour, Anissa Mbida.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, Anissa, vous nous proposez un jeu assez génial pour tous ceux qui sont coincés chez eux et qui ça va leur permettre de voyager quand même, d'une certaine manière.
Et qui sont nuls en géographie, on est d'accord.
Exactement, c'est un jeu pour ceux qui adorent voyager, qui sont très nuls en géographie. Et c'est un jeu qui permet de réaliser un rêve qu'on a tous eu, hein. C'est faire tourner un globe comme ça et d'être parachuté au hasard n'importe quel endroit, à n'importe quel point de la Terre.
Attends, mais comment ça marche?
Mais attendez,
C'est le teaser. On est tous sacrément teasés. Le programme est donné, l'équipée sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipée sauvage.
C'est donc Philippe Gloeguen qui nous accompagne cet après-midi. Qui est Philippe Gloeguen? Eh bien, ami jeune, fan de Mark Zuckerberg et autres Elon Musk, que vous prenez pour des businessmen de génie, je vous présente celui qui, en termes de réussite professionnelle, a fait beaucoup mieux que n'importe quel self-made man de la Silicon Valley, puisqu'en effet, il est le seul type au monde à avoir réussi à créer tout un business qui consiste à le payer lui pour voyager partout dans le monde. Le guide du routard qu'il a créé, tout simplement le livre le plus vendu en France de l'histoire, plus de 50 millions d'exemplaires. Même la Bible n'a pas fait mieux, Philippe.
Si.
La Bible est devant, mais ouais. De peu.
Mais par contre, le Christ ne touche plus de droit d'auteur.
Alors que vous, oui, vous êtes mon champion de toute catégorie. Est-ce que le succès du routard continue? Est-ce que vous êtes sur la même tendance depuis des années? Ou est-ce que Internet, TripAdvisor, tout ça, ça vous fait du mal? Ou pas du tout? C'est juste
Pas du tout. Alors d'abord parce qu'on en profite. Nous, on a créé il y a 20 ans maintenant avec un monsieur que vous connaissez un petit peu, Arnaud Lagardère, routard.com, qui est donc le site qui est gratuit. C'est ça tout le secret de cette réussite Internet, qui donne envie de voyager. Mais après, pour avoir recours à la compagnie aérienne, le tour opérateur, eh bien, il faut consulter routard.com. Et c'est vrai qu'on a les meilleurs rapports qualité-prix.
Philippe, on va parler de ce livre, on va le feuilleter tout au long de ces deux heures. Mais une question toute simple, vous partez où par exemple cet été?
Alors,
vous savez déjà?
Oui, absolument, en France, et j'en suis ravi. Je vais en Charente-Maritime, autour de l'île de Ré. Et ensuite, je rejoins des amis en Ardèche et Drôme.
Ah, l'Ardèche. Ah, vous nous parlerez un peu de l'Ardèche, parce que c'est une région qui est magnifique.
Vous cherchez un plan?
Ben, je ne cherche pas un plan, comme vous dites, de cette manière un peu vulgaire qui vous caractérise. Et là, ben pas forcément un plan, ni tout ce qui va avec, mais juste la beauté des lieux. Vous savez, je pensais aux Gorges du Verdon. Tiens, on parlera des Gorges du Verdon tout à l'heure. Son ouvrage.
Qui ne sont pas dans l'Ardèche.
Qui sont pas du tout en Ardèche.
Ça ne s'améliore pas en géographie.
Excusez-moi, parce que même moi, ça je le sais, c'est un peu vers chez moi, si vous voulez. Mais bon.
Philippe Gloeguen, heureusement, est avec nous.
Europe 1.
Et si vous jouiez avec Google Street View? Anis Mbida, notre expert innovation, vous fait voyager sans bouger de votre canapé grâce à une nouvelle fonctionnalité de la célèbre application, en espérant bien sûr que cette fois Eva arrive à suivre ses explications. La dernière fois, sur la pilule d'invisibilité conçue à partir de l'ADN des poulpes, elle n'avait pas tout compris.
Une pilule qui pourrait nous rendre invisibles ou du moins transparents.
Et avec des tentacules.
Je ne sais plus quoi penser de vous, Eva. À tout de suite.
C'était une blague.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Et si cet été on partait à la découverte de notre beau pays? Quelle que soit la destination que vous aurez choisie, n'ayez pas honte de l'avouer. On sentait par exemple que notre invité d'hier, Ben L'Oncle Saul, n'était pas à l'aise.
Mais vous avez un concert.
Absolument.
Qui est déjà maintenu cet été en fait,
ouais,
au mois d'août.
C'est à Agde. On dit Agde peut-être, je sais pas.
Oui, ça se dit Agde, ou quand tu réalises en direct que ta seule date de l'été est en fait dans un haut lieu du naturisme et de l'échangisme français. Et encore, son tourneur a oublié de lui préciser que ça serait payé en nature. On continue de parler tourisme avec notre invité, le cofondateur du routard Philippe Gloeguen, mais l'heure de la compétition a sonné, l'heure d'écouter la chronique d'Anis Mbida, notre premier compétiteur cet après-midi. Alors, comme ça, Anis, vous voulez rivaliser avec le guide du routard?
Oui, bah, je vais profiter qu'il soit là, hein, parce que c'est un jeu vraiment formidable qui utilise les photos de Google Street View, hein, et le principe est vraiment tout bête. Vous êtes parachuté à un endroit complètement au hasard sur la planète et vous devez deviner où vous êtes.
Par les pancartes, les...
Exactement. Donc on a que son sens d'observation. Donc on zoome. Alors je vous en ai emmené un pour que vous puissiez regarder. Là on est projeté à un endroit complètement au hasard et vous pouvez tourner autour de vous-même, vous pouvez avancer, vous pouvez zoomer sur les cartes. Alors on repère les marques des voitures, on repère les signes sur la chaussée, on cherche les plans, on cherche les pancartes, etc. Et on se déplace. Vous savez, dans Google Street View, on peut avancer dans la rue, on peut prendre des virages, etc. Et là on se déplace et on cherche comme ça des indices. Alors c'est encore mieux quand le temps est limité, parce qu'on peut se donner 5 minutes pour essayer de trouver l'endroit, et on peut jouer à deux, chacun son tour, pour savoir qui est le premier à se rapprocher. Et une fois qu'on a trouvé, qu'on a un indice, on positionne une punaise sur la carte, et plus on est près de l'endroit où on a été parachuté, plus on gagne des points. Il faut être précis au mètre près. Voilà. Et on va écouter ce que ça donne quand on joue à deux.
Ça se trouve, il a déjà vu un panneau dans l'autre sens. Ça se trouve, il est parti dans l'autre sens, il a trouvé un panneau avec écrit... Lima à 12 km, quoi, avec le numéro de la route. Et du coup, il sait exactement où on est. C'est peut-être la Turquie. J'ai des doutes turcs. Parce qu'au début, je pensais qu'on serait en Amérique du Sud.
Oula.
J'ai fait 27 km.
Putain, 232 km.
Ah là là.
Mais
là.
Je me fais défoncer, tu. Ah putain, Ululangat juste là. Mais comment t'as pu te dire que c'était à côté de Kuala Lumpur, on était en pleine campagne quoi.
C'est gratuit à Nice, le jeu ?
Alors c'est totalement gratuit, sauf que ça repose sur Google Street View, le Street Google Street View est payant. Et donc, ils ont été obligés de rajouter une fonction un petit peu, ce qu'on appelle le freemium. Donc, il y a une version gratuite. Et si on veut des cartes un peu spécifiques, un peu spéciales, par exemple, on peut avoir des cartes que des capitales, que des aéroports, par exemple, que des circuits de Formule 1. Vous projetez dans un circuit de Formule 1, il faut deviner lequel. Dans des villes françaises, il faut deviner quelle est la ville française. Et pour ces cartes un petit peu spéciales-là, il faut payer, c'est 1 euro en général. Et c'est sinon, le jeu en lui-même est complètement gratuit.
Et quand on est nul, comme moi, pardon, allez-y, Philippe.
Là, c'est sur l'image de notre ami Anissé, c'est un peu. C'est pas terrible, c'est la maison de campagne de Mathieu Noël.
Entre moi, Anissé,
moi, j'ai l'impression que c'est en Thaïlande. Hein.
Il est temps que vous veniez à la maison.
Mais
parce que...
Et si on vous balance en plein milieu d'un
désert, ma maison de campagne.
Si on vous balance en plein milieu d'un désert ou d'une forêt.
Mais justement, c'est ça l'intérêt, c'est ça le challenge. Il y a même des gens qui s'amusent, qui sont tellement experts et tellement bons en géographie que le but du jeu, c'est de savoir où on est sans même se déplacer. C'est-à-dire qu'on vous projette au milieu d'une forêt et rien qu'en détectant les types d'arbres, la position du soleil, le type de bitume qui est utilisé, les gens sont capables de dire dans quel pays à peu près on est quand on est un véritable expert.
C'est passionnant, mais comme vous recevez des sextos en même temps, je vais vous rendre la tablette, parce que c'est un petit peu gênant.
Il y a des communautés qui se sont installées sur ce jeu, et franchement, je vous le recommande, allez-y. Il y a même un challenge qui est très intéressant, c'est quand on prend des monuments célèbres, des endroits célèbres de la planète. Tiens, tenez, je vous ai amené un.
Ah non, ouais, ça, c'est la fontaine de Trévi.
Alors, est-ce que vous serez capable de la placer précisément sur une carte ? C'est ça,
c'est
Rome, mais à quel endroit ?
Précisément sur une carte, tu mets Rome.
Moi, j'aurais plus de points si je suis à 500 mètres ou si je suis à 1 km.
Philippe, à l'est de la Piazza Navona.
Eh bien, allez-y, je vous invite à jouer. Et Philippe est à 350 mètres.
Oh là là !
350 mètres.
Ça, bon. c'est
Mathieu même... Noël, mauvaise nouvelle, je prends votre place.
Oui, moi j'étais à 350 km, c'était pas loin, c'était juste l'unité qui était différente. Merci beaucoup Anissé Mbidaï, bravo également à Axel de Tarlé qui n'a pas interrompu Anissé pour se foutre de sa gueule.
J'avais jamais fait ça de ma vie.
Oui, ça doit être épuisant, bravo mon grand. Europe 1. Jadis, avant le Covid, au moment de choisir une destination pour les vacances, comme on avait l'embarras du choix, ça pouvait créer des dissensions dans le couple.
J'ai des envies de voyage, l'Océanie, Bora Bora, les Vainées.
Tu veux m'emmener ?
On n'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort.
Cet été, plus d'engueulades, une seule destination s'impose, la France. Mais où en France ? Philippe Gloguen, cofondateur du Routard, a mille et une idées pour vous. Il vous en confie quelques-unes juste après Feist. 1, 2, 3, 4.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe sauvage spéciale vacances d'été. Alors c'est sûr, l'insouciance qui primait jadis dans les campings et autres clubs de vacances n'est plus de mise, surtout pour les membres du corps médical.
Si t'as le moindre pépin, je suis médecin. Enfin, essaye de pas me déranger pour des bricoles quand même. Je suis en vacances. Merci.
Cet été, nous serons nombreux à rester en France. Ça tombe bien, c'est un des plus beaux pays du monde. Encore faut-il avoir le bon guide. Philippe Gloguen, vous avez publié il y a quelques mois un livre magnifique. Vous avez dit que c'était un des livres les plus importants du Routard. Voyage France, un livre illustré. Non, c'est clairement
ça fait partie des beaux livres. C'est-à-dire que ça va être compliqué de voyager avec quand même.
Ça ne se met pas dans le sac à dos. Hein. Il faut le consulter. Avant, il faut choisir une région. Il y a des régions dont on soupçonne mal les richesses. Est-ce qu'il y a des régions mal aimées en France qui regorgent de trésors.
Oui, il y a des, il y a la France que l'on connaît, c'est surtout la France des côtes, hein, puisque la plupart assimilent la mer, les plages à juste titre, surtout quand on a des enfants aux vacances. Mais il y a aussi cette France de l'intérieur, cette France que nous appelons la France des terroirs. Et ce qui est assez intéressant en France, c'est que vous avez un tas d'endroits qui sont peu fréquentés parce que peu connus et donc bon marché. Vous évoquiez l'Ardèche tout à l'heure. C'est un endroit où vous trouvez des chambres d'hôtes à 50-60 euros parce que mine de rien, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent alors que vous avez tout. Sur place, des villageois qui ont gardé leur tradition, c'est leurs recettes gastronomiques, que ce soit la Ligot dans le Cantal les charcuteries en Ariège. Et ça fait partie aussi de notre patrimoine, de notre
culture. La gastronomie, c'est toujours très important dans le Routard. Hein.
Bien entendu, parce que c'est un des intérêts majeurs de la France. C'est-à-dire, il y a de la culture avec les vieilles pierres. Il y a surtout les rencontres avec les gens, et c'est là-dessus que le guide de Routard a fait un peu sa réputation. Mais il y a aussi la gastronomie. Et la gastronomie, ce n'est pas forcément des étoilés Michelin. C'est aussi cette gastronomie qui se transmet de père en fils, de mère en fille, et qui traverse les siècles d'une façon magistrale.
Eva, cet été, est-ce que vous prendrez le Mastrou avec moi ?
Alors dites-moi où c'est, parce que je ne connais pas.
Justement, c'est ces fameuses gorges du Verdon dans l'Ardèche. C'est le train de l'Ardèche. Datant de la fin du 19e siècle, le chemin de fer du Vivarais est emprunté par un train touristique surnommé le Mastrou, qui vous mène de Tournon-sur-Rhône, Saint-Jean-de-Muzol à Lamastre avec locomotive et voiture de collection.
Mais moi, j'adore les
dont
les
locaux à vapeur.
Ouais. Mais j'adore
ça, ça me
les trains touristiques.
Je ne savais pas que ça existait.
Vous avez énormément de petits trains qui sont devenus touristiques. Par exemple, le train des Pignes.
Oui,
le train
des Pignes
sort part du centre de Nice.
Vous savez d'où il part exactement? Parce que moi, je vais vous le dire, il part de la rue Montéga, c'est là où habite ma mamie, je la salue, et le train des Pignes passe devant sa maison.
Et qui va, qui parcourt la montagne, là, c'est absolument sublime.
Et il s'arrête en cours de route, et vous savez qu'en été, on met un train à vapeur, une locomotive à vapeur, et c'est vraiment le Far West.
Magique, et c'est magique pour les enfants aussi.
Et vous montez dans les Préalpes, c'est-à-dire que vous montez haut, et sur place, vous pouvez faire escale sur des restaurants exceptionnels. Et c'est cette France un peu oubliée, qui n'est pas gérée, je vous le dis, pour votre mamie, par la SNCF, mais qui est gérée par le Conseil général de la région des Alpes-Maritimes.
Voyage France sera, n'en pas douter, notre Bible estivale, et je n'utilise le mot Bible à dessein, puisque la Bible est le seul livre qui est plus vendu que le Routard. Et encore, j'ai eu Jésus au téléphone, il est inquiet, pas pour longtemps.
Europe 1.
Après les usines et les ouvriers, et si demain les cols blancs étaient victimes à leur tour de la délocalisation ? Grâce au télétravail, on va pouvoir désormais délocaliser le travail intellectuel. D'après Axel de Tarlé, notre expert éco, aucune profession n'y échappera. Cadre, ingénieur, journaliste. Ouais, c'est ça, Axel m'a dit. Dites carrément que demain une intelligence artificielle va me remplacer, moi.
Parce que tu te crois irremplaçable, tocard, si c'est pour faire dire à Eva Rock, avant de lancer la pub, je peux la présenter sans problème ton émission. Tiens, justement, voici la pub.
Flippant l'avenir.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Alors que selon l'OMS, la situation de la pandémie s'aggrave dans le monde, notamment en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, plus que jamais cet été, c'est le moment de redécouvrir la France, de rester chez nous. Et au fond, ça nous va bien, à nous Français, de rester chez nous. Parce que dès qu'on essaie de s'ouvrir un peu sur nos voisins, bah très vite on abandonne parce que c'est trop compliqué, à l'instar d'Axel de Tarlé.
Ich bin ein Europäer. Je parle pas allemand. Voilà.
voilà. Heureusement, pour vous fournir des idées. Destination pour cet été, Philippe Gloeck, le cofondateur du Guide du Routard, nous accompagne cet après-midi. Ensemble, on feuillette Voyage France, un ouvrage magnifique qui tombe à pic avec mille et une idées de séjours et de lieux à découvrir. Est-ce que vous, Philippe, vous découvrez encore des lieux en France ? Vous qui êtes le fondateur du Routard, est-ce que vous êtes encore surpris par des lieux ?
Bien entendu. Et c'est même l'intérêt du voyage. D'abord, de retourner sur le même endroit. L'autre jour, j'ai revisité la cathédrale de Chartres. J'avais oublié quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que à l'intérieur de la cathédrale de Chartres, à l'intérieur de la nef, vous avez un labyrinthe. Vous savez qu'au Moyen-Âge, les gens qui étaient en pèlerinage devaient faire à genoux la totalité du labyrinthe à l'intérieur. Donc en plus, l'œuvre est absolument extraordinaire parce que c'est des dallages blancs et noirs.
Et vous avez oublié ça quand
j'avais oublié. Ça, c'est très rare. Et d'ailleurs, le labyrinthe est tellement important que c'est le logo des monuments historiques. Quand vous regardez les panonceaux monuments historiques, c'est un labyrinthe, c'est celui de Reims. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est oublié parce qu'on oublie que les pèlerins devaient arriver au paradis à genoux. Alors, pour Mathieu Noël, c'est pour excuser tous ses péchés.
Mes péchés géographiques, surtout. Alors, face à vous, Philippe, sous vos yeux émerveillés, le marquis qui, jadis, vivait dans les châteaux qu'on visite aujourd'hui, désormais obligé, révolution oblige, de cachetonner à Europe 1 pour perpétuer sa lignée, celle admirable des deux Tarlés. Or, après la Révolution, un autre malheur s'abat sur vous, Axel. La délocalisation pourrait demain ne plus concerner seulement les cols bleus, mais aussi les cols blancs. Si je vous suis, seuls les cols verts en sortiraient indemnes. Eva, une note de 1 à 10 pour celle-ci.
Un à 10. En fait, elle est quand même plus intellectuelle qu'on y pense. Ouais, qu'on y pense.
N'exagérez pas non plus. Ouais, 1 à 10.
Allez, 4.
4. Merci pour votre indulgence. Ouais. Alors, comme ça, monsieur le marquis, on est inquiet.
Oui, on s'inquiète parce que comme le 5 millions de... de journalistes, de cadres, d'ingénieurs. Vous savez qu'il y a 5 millions de gens qui ont travaillé à distance. Alors qu'on travaillait parfois depuis chez eux, mais parfois depuis leur résidence secondaire, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé depuis la Bourgogne, comme Olivier Pouls d'ailleurs.
Notre chroniqueur gastronomique.
Exactement.
Qui a failli y rester d'ailleurs. Ouais. Enfin,
de son plein comme la Normandie, etc. Mais une fois qu'on est à Lyon, pourquoi on ne va pas carrément à Tunis? Eh ben voilà, on a ouvert la boîte de Pandore. Les entreprises ont réalisé pendant ce confinement, que le travail à distance pour les cadres, ça marchait très bien. Et donc, eh ben, est née cette petite graine de se dire, et si on délocalisait dans les pays à bas coût le travail, tout le travail intellectuel. Et cette idée commence à faire son chemin. Facebook, on a tous entendu le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, dire que d'ici 5 à 10 ans, la moitié des salariés seraient en télétravail. Et ce qu'on n'a pas lu, c'est la deuxième partie de la phrase. Il a ajouté... Naturellement, le salaire sera fonction du lieu où vous vivez.
Oui. Non.
Oh, si vous vivez, si vous êtes dans la campagne, ce ne sera pas le même salaire que si vous êtes à San Francisco. Si vous êtes à Mexico, ce ne sera pas le même salaire que si vous êtes en Californie.
Quelle horreur.
Et voilà comment le télétravail est en train de devenir un outil pour faire des économies.
Et un levier sur les salaires.
Et un outil pour délocaliser le travail intellectuel dans les régions, dans les pays à bas coût. Et donc, après la délocalisation des usines, des cols bleus, c'est bien la délocalisation du travail intellectuel d'école blanc qui se prépare.
Philippe.
Oui, il y a une chose qui est quand même très intéressante dans ce que vous dites, c'est que quand on voit tous les Africains, les étudiants africains qui font des grandes écoles et qui retournent dans leur pays, et malheureusement, ils n'ont pas souvent
de travail
qui correspond à leurs études, c'est vrai que c'est un retour qui est très intéressant parce que eux aussi vont pouvoir travailler correctement. Bon, alors après
il faut qu'ils soient rémunérés en conséquence, quoi. C'est ça, le problème.
Ouais, alors là vous aurez des difficultés parce que c'est le drame de la Tunisie. On sait que la jeunesse était très bien formée, mais qu'elle n'avait pas accès au travail en résonance avec le niveau d'éducation qu'ils avaient. Eh bien voilà, ça c'est un peu la terre est plate de Thomas Friedman. Alors néanmoins, et j'en parlais l'autre jour, vous n'êtes pas attentif à mes chroniques précédentes.
Là, vous savez, je suis très attentif à tout ce que dit le dauphin d'or.
Il y a une limite à tout ça, c'est qu'à un moment, le présentiel quand même devient important. Je vous ai cité l'autre jour l'exemple, vous savez, des négociations pour le Brexit.
Oui.
Et Michel Barnier, qui est le négociateur européen pour le Brexit, dit qu'en ce moment, les négociations n'avancent pas. Alors, on lui demande pourquoi, c'est dans une interview dans le Figaro. Et il dit, parce que tout se fait par visioconférence. Alors, quand vous imaginez et nous sommes 200, hein. 200 de chaque côté, côté anglais et côté européen. Et donc, quand vous imaginez ces gigantesques visioconférences sur un dossier aussi compliqué que le Brexit, et ben il dit ça n'avance pas, alors qu'en présentiel, là je le cite, c'est souvent dans un café, autour d'un couloir, à deux ou trois, qu'on arrive à débloquer des situations. Et c'est là où, à un moment, il faut quand même être présent physiquement. Il faut se voir physiquement pour être créatif, pour débloquer, pour être imaginatif. Au fond, le télétravail, ça marche bien pour le travail de routine. Mais dès qu'il faut être créatif, dès qu'il faut avancer, dès qu'il faut faire des gains de productivité, là, le présentiel retrouve toute sa place.
C'est bon alors,
on va garder notre boulot.
Merci beaucoup Axel de Tarlet. En toute franchise, comment vous vous êtes trouvé?
Court mais bon.
C'est également souvent la vie de votre femme.
Europe 1.
La vie est injuste et le quiz de Culture G qui suit en est la preuve. Puisque depuis août dernier, chaque après-midi, Eva est obligée d'affronter l'invité sur un thème qui lui donne une certaine longueur d'avance. Ce qui serait marrant aujourd'hui, par exemple, c'est que le quiz porte sur le tourisme. Et comme c'est le cas, je parie, Eva, que vous vous dites que je suis décidément un bel enfoiré.
Je vous l'ai pas dit, mais je l'ai fortement pensé.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage spéciale vacances d'été avec l'invité idéal aujourd'hui pour ce thème. Philippe Gloeggen, vous êtes le cofondateur du Routard et un de vos derniers ouvrages, Voyage France, nous permet de préparer un été franco-français certes, mais alors plein de surprises, car parfois la surprise est à 30 km de chez nous.
Ouais. Vous avez des endroits absolument fabuleux. Il y a quelques années, j'avais même sorti un guide du Routard sur les banlieues. Il se trouve qu'il y ait des endroits absolument splendides, oubliés. Que ce soit le musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux, à côté de chez vous. Au niveau gastronomique, on en parlait. Vous avez les pêches de Montreuil, une invention particulière d'un jardinier de l'époque, de planter les racines à l'ombre, mais par contre, l'arbre, le pêcher, était au soleil. Bon, bah, ça, c'est des petits murets de Montreuil, existent toujours. Vous avez le Cresson d'Ermenonville, vous avez un tas de Méréville, pardon, et c'était toute la ceinture maraîchère de Paris, qui est un peu oubliée avec le déménagement des Halles, qui autrefois jouait beaucoup sur les petits producteurs. On en a même fait une expression, gagner de l'oseille. Gagner de l'oseille, ah, c'était les maraîchers de la banlieue parisienne qui rapportaient de l'argent vite fait, bien fait. Et en liquide.
Quand j'entends la culture de Philippe, je me dis que vous allez vraiment dérouiller dans le quiz aujourd'hui. Ah. Justement, allons-y. Sénèque disait « On n'échappe pas à son destin, c'est pourquoi il vaut mieux l'affronter en face. » Ou alors c'était Moundir de Koh-Lanta, je ne sais plus. Une chose est sûre, c'est l'heure du quiz. Depuis toute petite, Eva épate ses professeurs par ses compétences géographiques.
Quel est le fleuve qui traverse Paris?
La Seine.
Oh, ah bah dans l'éducation nationale, hein, ils ont comme consigne d'encourager les enfants. Alors, Eva, vous êtes prête?
Allez, allons-y.
Allez, c'est parti pour le quiz.
La Seine.
Bravo, Eva. Philippe Gueguen, cet été sera l'occasion, on l'a dit, de redécouvrir les beautés de la France. On va donc faire un quiz sur ce qui s'est passé dans nos régions durant le confinement. C'est parti. Eva Rock.
Oui.
Parce qu'il avait envie, pendant le confinement, d'escalader la tour Eiffel, Sébastien Vettier, en Ille-et-Vilaine, a construit dans son jardin une tour en fer de 3 mètres de haut. Il l'a grimpée 108 fois, ce qui fait 324 mètres au total, l'équivalent de la tour Eiffel, vrai ou faux.
3 mètres, c'est pas haut, c'est ridicule comme truc. Non,
ce n'est pas la question.
Non, non, c'est
faux. Il a voulu faire un défi.
Non, mais c'est pas 3 mètres. S'il a voulu vraiment faire un défi, c'était pas 3 mètres de haut, sinon il est ridicule, le garçon.
Mais il l'a fait, il l'a grimpé 108 fois pour faire l'équivalent de grimper la tour Eiffel.
D'accord,
je vous aide, hein, mais donc c'est la réponse est.
Et vrai.
Oh, mauvaise réponse, Eva, quel dommage. La faute a pas de chance, c'était faux, Eva.
Oui.
Malheureusement, en revanche, il a fait 120 fois le tour de son garage en escaladant sans mettre le pied à terre, soit 4810 mètres, l'équivalent du Mont Blanc.
D'accord.
C'était ça la véritable histoire.
Il s'ennuyait, le garçon, tant mieux pour lui.
C'était le confinement,
s'ennuyait. Oui.
Philippe Gueguen. Ah, vous avez déjà une longueur d'avance. Dans le département du Bas-Rhin, pendant le confinement, un trafic de drogue a été démantelé. Les policiers se sont aperçus que les dealers avaient un geste commercial sympathique envers leurs clients. Ils offraient, en plus de la drogue, des masques et du gel hydroalcoolique. Vrai ou faux?
Vrai.
C'est vrai. Oh. Ils appelaient ça le kit coronavirus, un masque et une fiole de gel offert pour tout achat.
C'est
le sens du commerce. Philippe Gueguen et Varoc, vous répondez tous les deux à cette question. Pendant le confinement, les excuses pour sortir étaient parfois assez cocasses. Oui. En voici trois. Une seule est fausse. Laquelle? Un homme avec un boa autour du cou qui a dit « Il faut que mon serpent prenne l'air ». Un autre qui a dit « Je n'ai pas de chien, mais je promène mon fils, c'est pareil ». Et le dernier qui a dit « Je suis sorti pour voir si c'était vrai qu'on n'avait pas le droit de sortir
». Ah non, ça va, elle est vraie, je suis sûre qu'elle est vraie, j'espère.
Alors, moi, laquelle est fausse parmi
moi, j'aurais dit le père et le fils, là, pour sortir mon fils.
Philippe? Le boa.
Le boa. Eh bien, aucun point n'est marqué, puisque la réponse était « Je suis sorti pour voir si c'était vrai qu'on n'avait pas le droit de sortir ».
Elle
était inventée, mais c'était drôle.
Ouais.
L'homme au boa était dans les rues de Marseille, et la dame qui promenait son fils était à Bordeaux. Eva Rock, une destination pour vous. À Ménil-sur-Auger, il y a le musée de la vigne et des capsules de bouteilles de champagne. Vous pouvez y voir le plus grand tableau au monde, fait exclusivement avec des capsules de champagne, 12 mètres de long sur 3 mètres de haut. Vrai ou faux?
Des capsules de champagne?
Oui.
Ah, les capsules.
Oui, je sais pas. Oui.
Non, d'accord. Oh, si je vous dis ce que j'entends. C'est à quoi j'entends.
Vous pensiez à des capsules Nespresso qui feraient du champagne. C'est ça que vous étiez en train de penser. Non, mais emmenez-nous au cœur de votre cerveau, c'est toujours intéressant pour les auditeurs et pour la science en général.
Je crois que j'ai envie d'un café en fait. Pourquoi pas? Oui, vrai.
Vrai?
Oui.
Vous êtes sûr de votre réponse,
oui,
Eva?
Oui, je suis vrai.
Ouais, c'est une bonne réponse. J'ai pas réussi à me déstabiliser cette fois. 42 000 capsules, 160 couleurs différentes. 6 personnes ont travaillé 250 heures pour réaliser cette fresque. Sachez que les placomusophiles sont les collectionneurs de capsules de bouteilles de champagne qu'on appelle les muselets. Philippe Gueguen, à Mandelieu-la-Napoule, un glacier propose une glace goût vanille, fraise et Covid. Vrai ou faux?
Oh, quelle horreur! Mais que vous êtes bête!
Mais c'est pas moi qui ai créé ta glace! Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux?
Faux.
C'est faux et vous avez raison, mais ça existe, sinon la question n'aurait pas de sens. C'est à Milan, en Italie, c'est une glace présentée comme consolant du drame qu'a été le Covid et elle est au chocolat blanc et sauce pistache. La photo de la glace a été postée sur les réseaux sociaux. 2 heures plus tard, le marchand de glace en a vendu 4,5 kg. Ouais. C'est Philippe Gueguen qui remporte le quiz. Quelle surprise. Nous volons de surprise en surprise dans cette émission.
Europe 1.
Elle est la Rémi Bricca de l'audiovisuel. Après vous avoir ébloui par ses compétences en géographie, ses réparties cinglantes, Eva Rock va à présent vous bluffer par sa connaissance approfondie des programmes télé. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir sur nos chers écrans ? Eva vous guide juste après une parenthèse musicale. Enfin, Eva, ne soyez pas gênée quand je vante vos mérites.
Allez, on écoute Indochine. Hein.
Oh, quelle humilité. Allez, voici le Indochine suisse. Stéphane Escher, ne me dites pas non sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Cet été, oubliez Los Angeles, préférez Los Angeles. Comment s'offrir de belles vacances dépaysantes sans quitter la France ? On fait le tour de la question cet après-midi avec Philippe Gloagen, fondateur du Routard, qui fourmille littéralement d'idées pour notre été. On va se poser une question sans langue de bois. Quand on est le patron du Routard, est-ce qu'on n'a pas parfois des gens, des hôtels qui vous invitent gratuitement pour essayer d'être dans le guide, d'être cité ? Ça doit être une lutte perpétuelle contre les pots de vin quand on dirige le Routard, qui est tellement non, prescripteur.
C'est pas les pots de vin, c'est les hôtels. Et je vais vous dire, c'est même normal. On ouvre un hôtel, on ouvre un restaurant, on va écrire aux grandes collections de guides de tourisme.
Pour essayer d'être bon.
Et donc, ça fait partie de notre travail de sélectionner. Tiens, il est en bord de rivière, il n'est pas trop cher. On va envoyer un collaborateur. Mais le petit détail au guide de Routard, c'est que la visite est anonyme.
Ah, donc, voilà, c'est comme le Michelin.
Oui, absolument. Donc, on visite et surtout, on paye. L'addition, elle est toujours pour nous.
Et c'est comme ça, c'est votre indépendance qui fait aussi votre force. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, Philippe, cette statistique qui nous vient de l'université d'Oxford, mais chaque couple perdrait en moyenne 17 minutes par soir à s'engueuler devant l'écran d'accueil de Netflix avant de réussir à se mettre d'accord sur un programme. Il faut dire que souvent, monsieur a une idée assez précise de ce qu'il voudrait voir.
Ça manque de sexe, hein.
C'est Nono Nanette, c'est le général Dourakin. 46 minutes de sexe dans un film d'une heure et demie. Dans la dernière production américaine, il y a 1h28 de sexe. Dans un film d'une heure trente.
Et les 2 minutes qui restent, c'est quoi ?
Psychologique.
Génial. Voilà,
Jean-Pierre Marielle, nous manques. Laissons plutôt Eva Rock trancher pour ce qui est de nos programmes télé. Quoi de beau sur nos écrans ce soir,
Eva ? Eh bien, une nouvelle série française, c'est ce soir sur France 2 et elle est portée par cette musique. L'histoire débute à Paris, c'est la nuit, un club de jazz, le Wonderland. Jérémy est un jeune homme qui est fan de musique, il est subjugué par une photo qui est accrochée au mur de ce club, celui d'une femme de dos qui avance dans la mer, une femme d'un charme absolu dont il tombe tout de suite amoureux.
Elle, c'est la femme mystère. On sait juste que c'était une cliente au Wonderland, à Biarritz en 1960.
Peut-être que si tu lui chantes une très belle chanson d'amour.
Alors, je vous explique, la nuit se termine, en fait. Jérémy va monter sur scène, il va chantonner un vieux blues. Et là, d'un coup, il se retrouve à Biarritz dans les années 60. La mystérieuse inconnue de la photo, elle est là. Elle s'appelle Alice. Et dans quelques heures, elle ira danser au nouveau club de la station balnéaire, le Wonderland. Donc, du même nom que ce club parisien dans lequel il était quelques heures auparavant. Alors, tout ça paraît un peu fou, mais c'est aussi fou qu'une histoire d'amour. Parce que Romance, c'est le nom de cette série. C'est vraiment une histoire d'amour et un thriller, le récit d'une obsession amoureuse. Avec en décor la nuit que filme admirablement bien Hervé Admar, à qui on doit déjà Les Témoins ou encore Pigalle la nuit, qui étaient deux série formidable que je vous recommande au passage. Cette nouvelle série, elle lui permet vraiment de clamer haut et fort et avec poésie surtout son amour pour la musique, pour la littérature, pour le cinéma. Il y a plein de références à Hitchcock notamment, à Plein Soleil de René Clément. C'est une série qui est très esthétique, un peu mystérieuse, qui peut parfois déstabiliser, d'autant que la partie thriller n'est pas forcément la plus réussie, mais il y a une magie qui est difficilement explicable. Je ne sais pas, il y a un petit truc qui fait que vous êtes scotché devant l'écran et vraiment, jusqu'au dernier épisode, j'ai regardé les 6, je ne me suis pas arrêtée, avec au casting Olga Kurylenko, Pierre Deladonchamp, pardon, Barbara Schulz et le fabuleux Simon Abkarian. Les deux premiers épisodes sont diffusés ce soir à partir de 21h05 sur France 2 et vous en avez pour 3 soirées. Je vous la recommande, ça s'appelle Romance.
Ben, vous avez réussi à me donner envie, Eva. Je ne sais pas, écoutez, vous, Philippe, si ça vous tente, ce programme.
Vous avez regardé les 6 émissions pendant les heures de bureau ?
Et c'est mon travail. c'est mon travail, je suis payée pour
c'est
ça.
C'est comme vous quand vous vous baladez en France, vous êtes dans les hôtels. C'est pareil, c'est son travail aussi. Merci, Eva.
Europe 1.
Une première page se tourne dans l'équipée sauvage. Deux nouveaux prétendants au titre de chroniqueur du jour vont nous rejoindre, laissant à Anis et Axel le loisir de terminer leur face-à-face tranquillement à l'extérieur du studio, car comme le dit souvent Axel,
c'est dans un couloir ou autour d'un café qu'on arrive à débloquer des situations compliquées.
Ah, messieurs, quant à nous, grâce à notre invité Philippe Gloagen, fondateur du Routard, on continue de vous donner des idées de vacances en France pour l'été. Axel, je vous en prie, attendez d'être sorti du studio. Et monsieur n'est pas une salope, c'est un spécialiste innovation, ça n'a rien à voir.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
C'est la mi-temps pour nos vigoureux compétiteurs. L'heure de marquer une pause info. L'équipe est sauvage spéciale destination de l'été revient avec deux nouveaux journalistes au thème qui sur le papier peuvent sembler farfelus mais qui certainement à l'écoute le seront encore plus. Le renard à l'assaut des villes et les schtroumpfs à l'assaut des chinois.
Ah ouais quand même ouais.
Non Axel, on ne juge pas. On ne juge pas. Vos collègues vous ont poliment écouté, je vous demanderai d'en faire autant. En tout cas, rendez-vous dans un instant pour des enquêtes de qualité, fouillées, portées par des journalistes toujours extrêmement bien informés, même si comme Emmanuel Dutheil hier, ils refusent, et c'est bien normal, de révéler leurs sources.
Elle était pas si grosse en plus celle d'Epstein.
Pardon ?
Elle n'était pas si grosse celle d'Epstein.
Quand tu sais.
Secret professionnel, Eva. Secret professionnel. Mais voilà que retentit la célèbre sonnette. Elle nous informe qu'il est déjà 17h sur Europe 1.
Europe 1. 16h-18h. L'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage spéciale destination de vacances. Thématique qui nous tient à cœur avec Eva, car tous les deux on adore l'aventure, les voyages, les histoires de voyage. Le problème c'est qu'ici souvent, on avait cru que l'invité allait nous faire voyager. Avec Alain Souchon, ça partait bien, puis en fait...
Ben alors on vous le dit, il a eu une aventure extravagante parce qu'il était, il chantait je ne sais plus où, vers la Martinique et tout ça, puis alors il sur un bateau, puis il ne pouvait pas descendre, et puis enfin ça a été très compliqué. Mais vous l'aurez sans doute au téléphone, il vous racontera, ça vaut le coup. Hein.
Super. Aujourd'hui, quelqu'un qui va pouvoir vraiment nous raconter l'aventure car il l'a vécu. Philippe Bleuhagen, vous avez créé le Guide du Routard au début des années 70, 50 ans plus tard. Les Guides du Routard, on l'a dit, sont les livres les plus vendus en France. Est-ce que la crise du Covid a eu un effet sur les ventes du Routard, positif ou négatif ? Est-ce que les gens ont eu envie de préparer leurs prochaines vacances ou au contraire, ils n'ont pas pensé à acheter le Guide du Routard pour préparer des vacances parce qu'ils étaient flippés par le confinement ?
Alors, comme beaucoup de monde, on a vécu une véritable révolution. D'abord, sur 160 guides du routard de l'année, vous en avez 100 sur l'étranger. Alors, cela, pendant deux mois et demi, on oublie, c'est fini et tout. Mais il y a eu très vite une compensation dès qu'on a su qu'on pouvait, on allait pouvoir voyager en France. Eh bien, dès l'ouverture des librairies, énormément de gens se sont rués en librairie pour découvrir des guides du routard sur la France, sur des zones qu'ils ne connaissaient pas.
Bien sûr.
Des gens qui ont l'habitude d'aller en Bretagne ou en bord de mer sur la Côte d'Azur se sont dit, eh bien, on va découvrir la France de l'intérieur, cette France un peu méconnue. Et là, le Guide du Routard est effectivement très utile pour découvrir des coins un peu oubliés ou qu'on ne connaît pas trop. C'est pas l'Amazonie. Mais parfois, il y a certains coins en Auvergne, je peux vous dire, ou en Ardèche, qui sont
ça devient exotique.
très exotiques.
Alors Philippe Bleuhagen, vous allez nous dire où partir en France cet été, et on va voir que ce n'est pas le choix qui manque. Juste le temps de vous présenter nos deux ultimes concurrentes du jour. La première est notre expert du monde animal, Farah Kessri. Une femme formidable, mais un peu naïve, puisqu'elle cherche encore en moi une once de gentillesse et d'empathie.
Soit entre les poils ou dans les plis.
Bon, je vous en prie Farah, je suis fin comme un roseau. Aujourd'hui, vous nous parlez du retour du renard en ville. Est-ce que ça veut dire qu'on va bientôt pouvoir adopter des petits renards de compagnie?
Ah bah, je sais pas, vous voulez remplacer votre chat par un renard? Je suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne idée.
Miam ne serait pas contente, effectivement.
Mais selon une étude anglaise, ce ne serait plus impossible. Il paraît que les renards des villes seraient en voie de domestication. On va voir si c'est vraiment pour demain ou il faudra attendre un petit peu.
Votre rivale du jour, Farah, est une nouvelle venue dans la compétition. C'est pourquoi elle a décidé de frapper fort d'entrée de jeu avec un sujet au titre digne d'une contopétrie. Mais visiblement, ce n'en est pas une. Je cite: les Schtroumpfs à la conquête de la Chine. Bonjour Isabelle Orion.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes la spécialiste Europe d'Europe 1, si j'ose dire, basée à Bruxelles. Et aujourd'hui, probablement parce qu'il y a en Belgique un plus grand laxisme vis-à-vis du haschich, vous nous parlez donc des Schtroumpfs à la
c'est
conquête
au Pays-Bas,
de
le
la
laxisme.
Chine.
Et oui, parce que le premier parc d'attractions qui est entièrement dédié au lutin bleu de Peyo a schtroumpfé ses portes à Shanghai il y a quelques jours. Et grâce à moi, vous allez savoir pourquoi les Chinois aiment tant les Schtroumpfs. Et même comment on dit schtroumpf en chinois.
À mon avis, on dit schtroumpf, non?
Pas du tout, suspense.
Le comeback du renard urbain ou bien les schtroumpfs à l'assaut de la Chine, quel sujet vous passionnera le plus? Vous avez jusqu'à 18h pour nous le faire savoir via Twitter. Mais d'abord, Eva, la France l'attend. Ne faisons pas attendre la France.
Oui, allez-y.
Le mix.
Alors, je vous explique, Philippe Bleuhagen, tous les jours avec Sébastien Bordonnave, notre producteur, on traîne un peu sur Internet pour dénicher des séquences réjouissantes. Alors, par exemple, au menu en ce mercredi, Bernard Larvillier sur Facebook qui rechante Noir et Blanc avec le quatuor Ébène. Finn Draper, c'est un Anglais de 20 ans, vous allez l'entendre. Il refait de la techno avec quelques verres remplis d'eau et une bassine en guise de batterie. Et on commence avec Goguette, quatre artistes très doués pour parodier l'actu en chanson. Écoutez bien.
Pourquoi les gens qui meurent ont-ils toujours la même couleur? Si t'es un peu métisse, il ne fait pas bon croiser la police. À Minneapolis.
C'est la voix de Mandela, le tempo Dr. Fela. Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur. N'importe quel pays, dans n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur.
Il y a simplement des verres et une bassine. Vous imaginez ?
C'est vous ?
C'est fort quand même. Hein ?
C'est vous et c'est la Saint-Bordelais ?
Bah non. J'aurais un peu de talent si j'étais capable de faire ça.
Ne vous dévalorisez pas, Eva.
Oh non, mais je suis réaliste.
Non, il parlait de la bassine.
Voilà. Et voilà, même les invités s'y mettent.
Philippe Clohagen, vous avez fondé le Routard en 73. J'aimerais que vous nous racontiez, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire dingue de ce guide, comment vous avez déjà eu l'idée ? Comment ça s'est concrétisé ?
Alors, au départ, c'était un job d'étudiant. J'étais étudiant dans une école de commerce avec l'autre cofondateur, Michel Duval. Et pour gagner un petit peu d'argent de poche, on s'était dit, au lieu de repeindre des appartements comme pas mal d'étudiants ou donner des cours particuliers, moi, c'est simple, je voulais faire votre métier à vous deux, c'est-à-dire devenir journaliste. Et j'avais rencontré Jean Lacouture qui m'avait dit qu'il avait été à l'inauguration du deuxième barrage d'Assouan. Alors, d'un côté, il avait à sa gauche Khrouchtchev, de l'autre côté, il avait Nasser. Je m'étais dit, mais c'est incroyable, il a une perception de l'Égypte comme aucun milliardaire ne peut se le payer, avec des rencontres absolument inoubliables. Et en plus, tenez-vous bien, il est payé. Et donc, j'ai voulu faire le travail de journaliste de Jean Lacouture, avec le talent en moins, et on a créé le guide de Routard. Ouais. Voilà en gros ce qui s'est passé.
Si vous aimez les voyages, si vous aimez la France, si vous aimez les renards et aussi les schtroumpfs en Chine, surtout, restez à l'écoute d'Europe
1. Europe 1.
C'est une des conséquences les plus marquantes du confinement, la nature, qui peu à peu a repris ses droits. À l'échelle des villes, mais aussi à l'échelle des individus, comme le prouve cette confession à demi-mot des baroques. Eva, vous continuez de vous épiler ou vous avez renoncé ?
Oh, je suis...
La revanche de la
C'était
faune.
Voilà
le sujet de notre veto fracassé. Vous avez vu dernièrement des renards prendre le métro ? Non, vous n'avez pas bu trop de Mojito. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Notre spécial vacances en France continue sous l'égide du cofondateur du guide du Routard, Philippe Clohagen, dont on rappelle le dernier bijou. Voyage France, mille et une idées pour s'évader près de chez vous. Moi, quand j'étais enfant, je m'évadais dans le petit bois derrière la masure dans laquelle je vivais avec mes parents. Chichement, bien sûr. Quand j'avais fini d'éplucher les rutabagas, car nous n'avions pas les moyens d'acheter des pommes de terre, et que j'avais également fini de laver nos draps dans la rivière, j'avais le droit d'aller jouer dans la forêt. Et c'est là que je me suis découvert un ami, en la personne d'un renard, un petit renard roux.
Le renard tout roux.
Hélas, pour lui, comme pour moi, mais surtout pour lui, c'est aussi dans ce bois que j'ai croisé pour la première fois Eva Rock. Elle chassait. Le petit renard roux est mort sur le coup. 30 ans après, j'ai pardonné, mais je suis heureux que Farah Kestri nous parle aujourd'hui du retour du renard dans nos villes, Farah.
J'aurais mieux fait de tirer sur Mathieu Noël plutôt que sur le renard. Je vous le dis tout de suite.
Vous m'avez raté. Racontez-nous, Farah, domestiquer un renard, c'est bientôt possible.
Oui, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu des renards dans le métro, comme vous disiez tout à l'heure, mais on a vu quand même des renards au cimetière du Père Lachaise, et la cohabitation se passe plutôt bien, puisqu'ils nous débarrassent des rongeurs dans les cimetières, et il ne faut surtout pas les approcher, parce qu'ils ne sont pas domestiqués. Donc, c'est vrai que les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la définition même de la domestication. Pour certains, ça se limite à un animal qui est apprivoisé, cet animal doit être capable de vivre aux côtés des humains génération après génération. C'est le cas des porcs et des autres animaux d'élevage. Mais pour d'autres, il faut vraiment des modifications génétiques et
comportementales pour transformer radicalement une espèce. C'est le cas des chiens et des chevaux. Et c'est vrai qu'en Russie, il y a eu des expériences pour essayer de domestiquer le renard en appliquant des sélections génétiques, des croisements en repérant les renards qui sont les plus dociles, les moins craintifs. Mais finalement, ils ont obtenu des renards qui ressemblaient à des chiens. Donc, quel intérêt? Aucun.
C'est bien résumé.
Bah non, autant garder nos chiens, il y a 400 races.
Oui, c'est vrai.
Et donc, il ne faut pas s'approcher de la famille des renards qui a élu domicile au Père Lachaise depuis le confinement. Ils sont encore sauvages, il faut bien le dire aux gens.
Oui, oui, ils sont encore sauvages. De toute façon, ce sont des animaux qui sont craintifs. Ils ne se montrent pas au public. Mais c'est vrai que selon l'étude anglaise, pour les renards de Londres, par exemple, ils se sont rapprochés de plus en plus des villes parce qu'il n'y a plus d'habitat. Enfin, leur habitat a été limité par l'homme. Leurs ressources alimentaires ont été diminuées en raison de l'homme. Et donc, on peut se dire, l'environnement a été modifié, une modification imposée par l'être humain. Ça pourrait induire une domestication, un changement de comportement. C'est vrai que ces renards des villes ont une morphologie un peu différente par rapport aux renards des campagnes. Leur crâne, leur museau, leur tête dans l'ensemble est plus petite que les renards un peu plus sauvages. C'est l'un des signes qu'on détecte pour faire la différence entre des animaux domestiqués, des animaux sauvages. Mais ça se produit sur des générations et des générations. Donc, ce n'est pas encore pour demain qu'on pourra adopter
un renard.
Et heureusement, parce que moi, je suis pour ne pas dénaturer les espèces animales. Un renard, c'est sublime dans son état sauvage.
Vous ne devrez pas, ça vous ferait des clients en plus, des propriétaires de renards.
Oui.
Philippe, vous aviez une question pour Farah.
Oui, une information à propos d'animaux sauvages qui ont envahi notre environnement. Ce sont les perroquets qu'on retrouve dans plein de parcs municipaux à Bruxelles et à Londres. Et
on
en voit... ce sont à l'origine des perroquets qui se sont échappés de volières d'animaux exotiques, mais ils se sont acclimatés, c'est-à-dire qu'ils ont supporté les hivers, se sont reproduits. Et ce qui est très impressionnant chez les perroquets, c'est la taille des nids. Et vous voyez beaucoup de perroquets à Bruxelles
Raison
et à Londres.
Raison plus pour aller visiter Bruxelles.
Raison
non,
plus.
Mais c'est vrai.
Bonne idée.
On va pouvoir faire des safaris à Bruxelles.
Voilà, Isabelle Horry, c'est une bonne idée.
Merci beaucoup, Farah Kesky. Eva, je crois que vous avez une question importante à l'issue de cette chronique.
Est-ce qu'on a un tire-bouchon?
Oui, on a en même temps.
Quand on s'amuse à buter
des renards. Notre spécial vacances d'été en France continue avec l'expert des vacances d'été en France, Philippe Glohagen, fondateur du Guide du Routard. Et justement, dans un instant, c'est Eva Rock qui va l'interviewer. C'est son moment. Hier, avec Ben l'Oncle Saul, ça s'est pas mal passé, hein, Ben?
Oui, c'était à Gerbé, par contre.
Moi, j'aimais bien.
C'est ça qui compte. Les trésors cachés de notre beau pays pour des vacances dépaysantes, parfois tout près de chez nous. C'est juste après Nina Simone. Feeling good sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage spéciale vacances d'été. Un été qui, avec les mesures de distanciation sociale, s'annonce un peu moins chaud que d'habitude. Au grand dam d'Eva, qui a l'habitude d'aller se détendre dans un resort adult only à Lanzarote, où elle pratique déjà, cela dit, une forme de distanciation sociale, en tout cas dans les moments clés.
Je te prie de faire très attention, je ne prends pas la pilule.
Alors, cet été va être un peu différent, ne serait-ce que parce que beaucoup d'entre vous vont le passer en France. Mais l'été en France, c'est formidable, comme nous l'explique depuis tout à l'heure Philippe Glohagen au micro d'Eva Rock.
Mais oui, alors Mathieu vous a un peu charrié en début d'émission, Philippe Glohagen, disant que vous aviez un job de rêve, c'est-à-dire payer quand même pour aller visiter des pays et même visiter la France. Mais plus sérieusement, comment vous faites pour recruter vos journalistes? C'est quoi la principale qualité que vous recherchez chez un collaborateur?
La passion. La passion du voyage, la passion de la découverte. Effectivement, on est payé pour découvrir et transmettre. Et ensuite, cette passion-là, il faut l'écrire. Mmh. Donc, il faut avoir un sentiment un peu fort entre les mains et cette volonté de transmettre, d'expliquer comme un instituteur, comme mon papa autrefois.
Et je crois que vous avez une particularité au sein de la rédaction en chef de du Guide du Routard. Il y a beaucoup de femmes.
C'est même la majorité. Alors la parité, quand il y a des manifs au Guide du Routard, c'est plutôt les hommes qui font les manifs. la rédaction en chef est en alternance, c'est-à-dire il y a un garçon et il y a une fille, mais les responsables d'édition, donc c'est des responsables de zone, des responsables de pays, ce sont plutôt des femmes.
Oui, parce que je me demandais comment vous attribuez tel pays à tel journaliste. C'est à la courte paille ou c'est parce qu'il a des compétences
Non.
Avec, heureusement que c'est pas vous qui dirigez le routard, Eva. Toi, la courte paille. Mais moi, je parle chinois, c'est bien. On s'envoie en Inde.
Mais pour le coup, ça pourrait être intéressant parce que vous, quand vous voyagez, quand vous partez en Chine, par exemple, vous savez pas parler chinois. Donc, il faudrait que, si, pour que le routard il soit vraiment à votre niveau, il faut que ça soit quelqu'un qui soit dans les mêmes conditions que vous, par exemple. C'était pas totalement idiot, ma remarque.
Oui, mais c'est pas un problème de langue. C'est un problème de culture. Donc, effectivement, mon collaborateur responsable, Gavins, sur la Chine, ne parle pas chinois, mais il est passionné de l'histoire de la Chine. Il écrit, il a surtout lu énormément de bouquins sur Mao, sur un tas de choses très proches et contemporaines. Et il a envie de transmettre. Il est allé partout en Chine. Et c'est cette culture-là qui est importante. C'est une culture du terrain et c'est le propre du guide du routard.
Et c'est la France que vous connaissez le mieux de tous les pays ?
Non, je vous dirais, il y a vraiment des endroits que je ne connais pas si bien que cela en France. Je vous dirais que je connais un peu tout, assez concentré sur des zones où j'ai des amis. On s'est fait des amis sur place, en particulier en Martinique, au Maroc, en Inde aussi, qui est un peu le démarrage du guide du routard à l'époque de la route des Indes, et puis beaucoup de pays européens. Mais peut-être que le pays européen que je préfère après la France, c'est l'Espagne.
Ah oui.
Je parle espagnol, j'y vais très souvent, au moins une fois par an, et la culture espagnole, c'est la culture des Hidalgo, c'est-à-dire Axel de Tarlé, c'est-à-dire la noblesse, l'aristocratie, on la retrouve vraiment en Espagne.
Cet été, on va rester en France,
oui.
Parce qu'on n'a plus trop les moyens. Voyage France, c'est le livre dont vous avez besoin pour préparer l'été, un été français, mais un été olé olé quand même. Philippe Gloagen, le fondateur du Routard, reste avec nous.
Europe 1.
Ceci est un message du ministère de la Santé. La drogue est un fléau. Si un jour une collègue commence à vous parler des schtroumpfs qui partiraient selon elle à la conquête de la Chine, c'est qu'elle a certainement pris de la schnouf. Et ça, tous les médecins vous diront, c'est schtroumpfement dangereux. Isabelle Horry arrive.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Saviez-vous que les peintures de la grotte de Chauvet datent de 15 000 ans avant Lascaux, ou bien qu'il y a 24 statues de la liberté en France, ou encore qu'il existe un musée consacré aux vampires ? Philippe Gloagen, vous êtes le cofondateur du Routard et vous nous présentez aujourd'hui le guide de nos vacances en France, Voyage France, très beau livre illustré. Il y a même une petite partie sur la France coquine qui a beaucoup plu à Eva Rock. La France coquine, on peut visiter par exemple le château du Marquis de Sade.
Oui, le château du Marquis de Sade est dans le Luberon, racheté par un homme illustre, Pierre Cardin. Et donc, en fait, lui, c'est simple, il a racheté tout le village et, il en a fait quelque chose d'assez extraordinaire, avec un tout petit inconvénient, c'est que ça a chassé les habitants.
Et il paraît que c'est très vide comme endroit, malheureusement. C'est beau, mais c'est très vide.
Voilà.
Alors, Philippe Gloagen, la France est certes séduisante et a beaucoup à nous offrir en termes de tourisme, mais je vous propose maintenant de partir en Belgique, retrouver la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, Isabelle Horry, qui va nous parler des schtroumpfs. Des schtroumpfement couillus, puisqu'ils partent, Isabelle, à la conquête de la Chine, le berceau du Covid. Est-ce que c'est vraiment le moment pour les schtroumpfs ? Ou alors peut-être ils sont immunisés, dans leur constitution.
Ouais, c'était prévu avant, donc c'est vrai que c'est une coïncidence de date un peu compliquée pour eux, mais quand même, voilà. Alors en fait, je vais vous parler du premier parc d'attractions qui est entièrement dédié aux schtroumpfs et qui vient d'ouvrir à quelques kilomètres de Shanghai. Alors c'est vraiment la consécration, enfin, pour le schtroumpf à lunettes, le schtroumpf maladroit et toute la bande. Consécration donc à 7600 kilomètres de la Belgique, le pays où leur créateur, parce qu'à 60 ans, c'est leur premier parc rien qu'à eux. Et donc, ils vont enfin pouvoir rivaliser avec Mickey ou Astérix, par exemple.
Si je puis me permettre, Isabelle, ça aurait peut-être été plus simple de le faire à côté de Bruxelles, ce parc à thème sur les schtroumpfs.
Ouais, alors ils l'ont fait en Chine parce qu'en fait, il y a une vraie histoire d'amour entre les Chinois et les schtroumpfs. Alors, pas tellement à cause de la BD, plutôt en fait grâce au dessin animé des années 80.
Mais nous n'avons pas peur.
Voilà,
exactement.
Eh bien, figurez-vous en fait que ce dessin animé, c'était la seule série étrangère autorisée à l'époque par le Parti communiste chinois.
C'est vrai que c'était pas très transgressif,
les schtroumpfs. Et aujourd'hui encore, les épisodes ont un grand succès. Et écoutez ce que ça donne, les schtroumpfs doublés en chinois. Alors là, c'est Gargamel avec le grand schtroumpf. C'est Gargamel avec le grand schtroumpf. On reconnaît assez bien quand même. Alors, et vu que je parle couramment chinois, je vais donc quand même pouvoir vous dire que schtroumpf en chinois, c'est Langjinling. Ça veut dire petit esprit bleu. En fait, le chinois, c'est la seule langue dans laquelle le nom des lutins a un sens. Et si vous voulez, je peux même vous traduire le nom de l'infâme Gargamel en chinois. Ah oui. Hein, ça donne Gueguou. J'aime beaucoup Gueguou.
Gueguou. Alors, d'accord, mais il n'y a pas que les Chinois qui aiment les schtroumpfs. C'est un peu court, votre explication, Isabelle, quand même.
Bon, en fait, si le parc s'installe en Chine, quand même, c'est aussi parce qu'il vise entre 6 et 10 millions de visiteurs par an.
Ah,
mais seulement, voilà, seulement, en fait, les 5-9 ans et leurs parents. Il n'y a pas de montagnes russes dans ce parc qui font peur pour les plus grands, par exemple. Et c'est en Chine qu'il y a le public potentiel le plus large dans cette tranche d'âge, m'a expliqué la société qui gère la marque. Et surtout, en Chine, les parents sont prêts à dépenser de l'argent pour leurs enfants, mais à condition qu'il y ait une dimension éducative.
Et oula. En quoi les schtroumpfs ont-ils une dimension éducative?
En
termes de parité, si vous pensez qu'il n'y a qu'une schtroumpfette pour 40 schtroumpfs.
Non, mais dans les épisodes les plus récents, il y a une petite fiche schtroumpf, il me semble.
Ouais.
Eh bien oui, en fait, c'est parce que depuis 2016, les schtroumpfs, c'est très officiel, ils sont ambassadeurs des Nations Unies pour le développement durable.
Depuis que mes parents ont quitté les Nations Unies, ça part en couille cette institution, je vous le dis.
Et donc dans le parc, votre enfant, enfin le petit enfant chinois en l'occurrence, eh bien il participera à des attractions en réalité virtuelle. Alors il sera un schtroumpf, mais voilà, il sera chargé de ramasser des déchets dans la mer et de les trier. Voilà, c'est un parc à terme qui apportera de la joie et qui aura une influence positive sur les jeunes. C'est ce qu'a déclaré le partenaire chinois du parc lors de l'inauguration. Et voilà, le parc ludo-éducatif, apparemment, c'est un marché très porteur en Chine.
Un parc à thème qui, me signale Philippe Gloagen, ne figurera pas dans l'édition du Routard parmi les nouveaux conseils. Je pense que...
Non, mais pourquoi pas si c'est éducatif?
Pourquoi pas
ludo-éducatif,
à côté de la Grande Muraille.
Ludo-éducatif avec une dimension communiste, ça va être quand même difficile de le recommander, peut-être. Merci. Merci beaucoup,
voilà.
Isabelle Horry. C'était schtroumpfement intéressant.
Europe 1.
C'est un fin gourmet qui s'apprête à nous rejoindre. Habitué aux tables étoilées, Olivier Pouls peut vous proposer des recettes extrêmement élaborées. Mais quand vient l'été, il aime aussi manger léger et, guidé par ses autres sens, il peut très bien se contenter du minimum culinairement parlant.
Je vais courir avec toi sur cette plage, complètement nu, lécher le sel de ta peau.
Ça doit être délicieux, mais enfin, va quand même nous proposer une recette un peu plus élaborée. Delis in extremis arrive.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage spéciale vacances. Un été post-Covid qui nous incite à redécouvrir notre beau pays et partir à la découverte de nos formidables compatriotes, si ouverts, si polis et surtout si détendus sur la route des vacances.
Attendez, regardez-moi ce cordon, il fait l'élastique et maintenant il s'arrête. Avant que je descende. Pauvre mec, vous pourriez me répéter ça, s'il vous plaît?
Et comment, pauvre mec? Ça fait un moment que je vous ai à l'œil. Vous m'avez doublé trois fois depuis les yeux, hein? Où voulez-vous en venir? Foutez-moi la paix. Je cherche ma ville là, c'est loué par correspondance.
On a bien.
Ah, oui.
En attendant, préparons ces vacances franco-françaises avec notre invité Philippe Gloagen, cofondateur du Guide du Routard. La France et la cuisine, ça fait partie aussi du livre qu'on feuillette depuis tout à l'heure, Voyage France. La France et la gastronomie, on peut vraiment faire un voyage autour des plats, quoi. On peut faire ça cet été, par exemple, ça peut être une idée.
Ça, c'est parce que vous avez fait ça l'an dernier que vous dites ça.
Et que je m'apprête à le refaire cet été, probablement. Effectivement, il y a peut-être une forme de tropisme de mon côté.
Non, mais est-ce que la part gastronomie a beaucoup évolué et a beaucoup grossi dans l'ADN du Routard depuis que vous avez lancé la collection?
La gastronomie, bien sûr, est vraiment une partie importante, surtout sur la France, vous le savez tous. Et puis, je dois avouer que nous avons une rédactrice en chef, Amanda Caravelle, qui est assez gourmande, mais comme elle est mince comme un fil, elle en profite un peu. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de découvrir une région aussi par la gastronomie. On parlait de l'Ardèche tout à l'heure, de l'Ariège. Vous avez la croustade en Ariège, qui est vraiment quelque chose de particulier. C'est un dessert feuilleté avec une couche de pruneaux ou de pommes, tout simplement. Quand il y a eu la tentative de conquête des Arabes jusqu'à Poitiers, arrêté par Charles Martel en 732, eh bien, ils ont laissé deux choses. La pastilla, qu'on retrouve dans le Gers, c'est devenu d'un plat salé au Maroc, c'est devenu un plat sucré. Et vous avez le fromage de chèvre, parce que les armées arabes, à l'époque, étaient sustentées par des troupeaux de chèvres, et ces chèvres sont restées après la déconfiture à Poitiers.
Ce livre dont on vante les mérites depuis tout à l'heure est vraiment fabuleux, parce que c'est pas juste un guide de voyage. Évidemment, vous allez trouver votre destination pour l'été. Mais vous ouvrez n'importe quelle page, justement, vous parlez des sucreries. Il y a deux pages sur les sucreries. La France possède plus de 600 spécialités sucrées. Et là, alors ça, je ne le savais même pas, alors que le miel existe depuis toujours, les croisés rapportent la canne à sucre de Perse au XIIIe siècle. Alors ça, il y a des infos historiques. Et vous connaissez mon goût pour l'histoire, Eva. Un goût très prononcé.
Mais c'est bien, vous
des croisades. Il y a beaucoup de choses qui sont venu, le sarrasin, la graine de sarrasin, d'où le nom.
Les galettes de sarrasin,
c'est très intéressant. Et moi, breton, je peux vous dire que la galette de sarrasin est une galette pour les pauvres. Donc, quand vous étiez reçu, et du temps de mon père, ça fonctionnait encore, on vous offrait des crêpes au froment, mais jamais de crêpes au sarrasin. C'était la crêpe des pauvres.
C'est génial. Que vous ayez envie de vous recueillir pieusement dans une cathédrale gothique ou que vous souhaitiez vous encanailler dans le château du Marquis de Sade, il est l'homme de la situation. Philippe Blagan, reste avec nous.
Europe 1. Axel de Tarlé.
Oui, alors lui, c'est encore plus hardcore. Hein. Pas en famille. Il fait partie de ceux qui, comme Philippe Blagan, croient en la France. En matière de tourisme, de gastronomie, mais même dans le domaine de la recherche médicale, il pense qu'on peut y arriver seul.
Non mais vous imaginez qu'on découvre par exemple que le pâté en croûte immunise contre le coronavirus. Mais ce serait merveilleux.
Ça serait génial. Ces recettes ne nous immunisent pas contre le coronavirus, mais contre la morosité, ça c'est sûr. Olivier Pouls arrive avec Délices in Extremis, juste après M. Croix au printemps, c'était M sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Tous les plus grands arnaqueurs de l'histoire se sont fait griller de la même manière en tombant un jour sur quelqu'un qui connaissait vraiment ce dont il parle. C'est ce qui est arrivé hier à Olivier Pouls, notre expert gastronomique, qui, voulant absolument nous placer une anecdote de bateau pris dans une tempête à l'origine d'une recette, s'est dit que son arnaque passerait inaperçue. C'était sans compter la présence d'une niçoise dans l'équipe.
Cette écume, vous l'enlevez avec une écumoire, évidemment. Et ensuite, vous allez tout simplement mouler cette pâte dans un plat ou dans une poêle.
C'est la soca, en fait.
À part que...
c'était juste une soca, mais tu voulais nous sortir ton histoire de navire italien qu'on n'a rien compris. Alors, Olivier Pouls, bonjour.
Mais je tiens à vous dire que la soca vient de cette recette italienne.
Ah, vous êtes renseigné depuis.
Évidemment.
Sur le moment, vous n'étiez pas très sûr de vous.
Vous croyez quand même pas que je ne m'attendais pas à ce que vous me remettiez le truc sur le tapis aujourd'hui. Je suis un peu préparé quand même.
Vous avez cherché sur...
vient évidemment de la farinata.
Et vous avez vérifié sur le site de référence italien. Non, Wikipédia. Alors, le thème de la semaine, c'est la street food, mon cher Olivier.
Oui, une street food de voyage. On va sortir de France, d'ailleurs. Alors, je vais vous poser la question, mais je pense que vous aurez la réponse, Philippe, si je vous invite à manger des kumpir. Où allons-nous Dans quel pays
Comment
ou dans quelle ville devons-nous nous retrouver?
Est-ce que vous le prononcez bien?
Kumpir. Alors,
en Asie,
où nous retrouvons-nous? C'est un plat très typique de street food d'une ville et d'un pays, en l'occurrence.
Ah bon?
La Turquie?
Exactement. Ah. Et ben voilà, nous nous retrouvons en Turquie. Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un kebab, quoi.
Alors, là, pas du tout.
Pas du tout.
Perdu, ma chère Eva. C'est une...
Elle est très contente de sa blague.
Ouais.
Elle le mérite.
C'est une pomme de terre, mais ce ne sont pas des frites. Donc, c'est une grosse pomme de terre qui est cuite au four, donc qu'on ne va pas éplucher, qu'on va emballer dans une feuille de papier aluminium, qu'on va cuire très longuement au four, parce que, évidemment, elle est de belle taille. Donc, il faut compter 45 minutes à une heure de cuisson. Une fois qu'elle est cuite, on la coupe en deux, on récupère la chair de la pomme de terre, en laissant un petit centimètre de manière...
Avec les doigts, si j'en crois vos mouvements.
Non, avec une cuillère, c'est plus propre. C'est plus propre avec une cuillère. Vous laissez un petit centimètre de bord autour parce qu'on va la refarcir. Et vous allez la mélanger avec du beurre, avec un fromage de brebis qu'on appelle le casseri là-bas, mais vous pouvez remplacer par un autre fromage si vous voulez. Et puis après, il n'y a pas une recette, mais il y en a mille. On peut jouer avec tous les ingrédients. Alors, certains mettent des olives, de la crème fraîche, des herbes, du maïs, des morceaux de saucisse.
Du maïs dans une pomme de terre?
Oui, bien sûr. Vous mélangez tout ça à la chair. Je peux vous dire, ça tient encore. Vous mélangez tout ça à la chair et puis vous refarcissez la pomme de terre avec cette préparation. Voilà, ça s'appelle un kumpir. Si vous allez, par exemple, à Istanbul, dans le quartier Ortaköy, eh bien, vous allez manger ces kumpir dans la rue. Elles sont aux quatre coins de rue proposées.
Ça, c'est bien,
c'est
facile
à faire.
Et vous
pouvez en manger aussi, avenue d'Italie, dans le resto turc.
Eh ben voilà, exactement. C'est beaucoup moins loin.
Restez en France, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour bouffer des coupes pires. On trouve tout si on connaît Philippe Gloeckien. Merci beaucoup Olivier Pouls. Votre recette est disponible sur le site d'Europe 1 Podcast et on vous retrouve évidemment samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Qui sera élu chroniqueur du jour? La tension est maximale à quelques secondes maintenant du dénouement. Axel de Tarlet me signale même que certains concurrents vont très loin dans l'intimidation.
Il s'est mis à nous menacer avec ses parties génitales.
Attends, non. À tout de suite pour la fin finale.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Notre spécial voyage en France se termine. Le suspense est maximal puisque nous allons maintenant élire le chroniqueur du jour qui sera d'ailleurs peut-être, n'en déplaise à Axel de Tarlet, une chroniqueuse car Isabelle Horry et Fala Kasri n'ont pas démérité. Vous êtes obligé de le reconnaître, Axel.
C'est un danger pour le groupe, une gonzesse.
Mais non. Ça crie, ça chiale, ça se pète oui. Les ongles, ça se coince oui. Les cheveux dans
oui.
Le casque.
Non, oui.
Ça...
Oui.
Ça a tout le temps envie de pisser.
Oui, merci. On passe au petit tout double. Vous avez chacun 10 secondes pour nous expliquer pourquoi vous êtes le meilleur. Isabelle Horry, même si vous avez consommé quelques stupéfiants pour cette chronique, pourquoi voter pour vous et vos schtroumpfs en Chine?
Non, parce que grâce à moi, vous savez comment on dit schtroumpf en chinois. Enfin,
ah oui,
j'espère que
oublié.
Vous l'avez retenu, Mathieu.
Voilà.
Lanjinling.
Voilà. Lanjinling.
Vous savez que ça... Ouais, et ça veut dire petit esprit bleu. Imaginez comment vous allez briller auprès de vos enfants.
Ça c'est sûr. Et Fala Kasri, pourquoi voter pour vous et votre renard presque domestiqué, mais pas encore tout à fait?
Je peux vous dire déjà comment on dit schtroumpf en espagnol, c'est pitufos. Et la schtroumpfette, c'est pitufina. Donc rien à voir avec ma chronique, mais je voulais bien la placer vu que notre invité parle espagnol. Donc je me suis dit, je vais gagner un point comme ça. Et je vous invite à relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Oui. Parce que le renard qui demande à être apprivoisé pour créer des liens, eh bien c'est très touchant et j'aimerais bien qu'on arrête de faire porter sur les renards l'étiquette des nuisibles parce que c'est une super espèce.
Bah, vous avez bien défendu votre cause aujourd'hui, Farah.
Oui, oui.
Anissa Mbida. Pourquoi voter pour vous cet après-midi?
Alors, je vais rappeler quel était le jeu. C'était un jeu gratuit qui s'appelle GeoGuessr. Et je rappelle le principe extrêmement simple. On est téléporté à un endroit de la planète. Et il faut, quelque part en France, par exemple, sur une route. Et il faut deviner où on est au mètre près. Donc, c'est une application formidable, gratuite, pour nous qui sommes tous des passionnés de géo. Même si on a des petits problèmes.
Moi, j'ai positionné les Gorges du Verdon à 150 km de leur emplacement en Ardèche, comme chacun sait. Axel de Tarlet, pourquoi voter pour vous aujourd'hui?
Philippe Gloeckien, d'abord je ne vous rappellerai pas que je vous ai apporté un café pendant la pause car je sais qu'au Guide du Routard on est incorruptible. Néanmoins, je vous ferai remarquer que ma chronique sur le télétravail peut amener des dirigeants d'entreprise à se déplacer, à aller à l'étranger et pourquoi pas acheter un excellent guide du Routard. Et voilà comment cette chronique peut être amenée à doper les ventes de votre célèbre et fantastique magazine.
Depuis 1789, ils sont prêts à tout, prêts pour survivre. Et va dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Ah, l'histoire du jeu d'Anissé les a beaucoup amusés et les a intrigués, donc ils ont voté pour Anissé Mbida. 2 points.
Eh bien, ça c'est vraiment la proximité avec le public. Je pense souvent comme eux. Je vote également pour Anissé Mbida. J'ai envie de jouer à ce jeu ce week-end. Mais vous le savez, ici c'est l'invité qui décide, qui tranche in fine. Philippe Gloeckien, le moment fatidique a sonné. À qui allez-vous donner vos points cet après-midi? Et pas de charité.
Alors là, sérieusement, je dois vous avouer que Anissé m'a épaté. Je ne connaissais pas ce jeu, même si c'est d'origine américaine. C'est quand même un jeu qui peut d'abord apprendre énormément de choses, et là, dans le secteur géographique, et puis faire participer tous les membres de la famille.
Et en plus, vous vendez un routard après, parce que quand vous devez aller voyager pour aller visiter
ou manger près de la fontaine de Trévis.
Quand le guide du routard se rallie au GAFA, moi, je suis très déçu. C'est Google qui gagne.
On est d'accord que vous votez pour Anissa Mbida.
Ouais.
C'est Grand Chelem qui remporte
Grand
Chelem, 190e journée de l'équipe sauvage remportée admirablement par Anissa Mbida. On remercie Philippe Gloeckien, cofondateur du Routard, et on rappelle le beau livre, le magnifique livre, on peut le dire pour votre été, Voyage France aux éditions Hachette. Je remercie mes équipiers du jour, Eva Roch, Fala Kasri, Isabelle Horry, Anissa Mbida, Axel de Tarlet et Olivier Pouls. L'équipe sauvage revient demain 16h tout de suite. Restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Routard. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Merci pour cette équipée sauvage du Routard. Aujourd'hui, on a voyagé, demain, autre ambiance. Vous recevrez Elsa Silberstein, la comédienne, bien sûr. Très belle soirée, Mathieu.